Nous recevons ce matin le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux, l'application de France Inter sont évidemment à votre disposition. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Inter. Ce matin, on va commencer par ce rapport de la Cour des comptes sur l'éducation prioritaire. C'est un rapport rude, mais qu'il faut analyser avec nuance. Rude parce qu'il pointe que l'écart de résultats au brevet entre un collège classé en zone prioritaire et un collège qui ne l'est pas, eh bien cet écart est de l'ordre de 20 à 30% en français et en mathématiques. Là où il faut de la nuance, c'est que le dispositif, on le voit, n'est peut-être pas aussi performant que possible, mais ce serait pire, évidemment, s'il n'y avait rien. Comment avez-vous reçu ce rapport? Quelle analyse faites-vous déjà sur le constat de la Cour?
Oh, écoutez, je partage une grande partie de ce que la Cour a écrit. Par définition, ce qu'écrit la Cour est souvent très sérieux, évidemment. Et en l'occurrence, c'est particulièrement approfondi dans le cadre de ce rapport. J'en retire plusieurs choses. D'abord, la légitimité de l'idée même d'éducation prioritaire. Donc, tous ceux qui pourraient craindre la fin de l'éducation prioritaire à cause de ce genre de constat se trompent. C'est tout le contraire. Il faut revitaliser l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est une bonne idée depuis les origines, c'est-à-dire faire plus pour ceux qui ont besoin de plus. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut continuer à avoir cet état d'esprit, mais l'avoir différemment, puisqu'il faut être plus efficace. Parce que c'est vrai que...
Ça marche pas.
Lorsqu'on fait le bilan des 40 dernières années, on se rend compte que, vous avez raison, si ça n'avait pas existé, ça aurait été pire, mais avec le même argent, on aurait certainement pu faire mieux. C'est ça la vraie question, puisque le but ne doit pas être de maintenir en permanence cet écart dont vous parlez, et qui est constatable en troisième, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi constatable en CP ou en terminale. Donc... Aujourd'hui, le but qu'on doit se fixer, le but absolu qu'on doit se fixer, c'est la fin de cet écart.
C'est un objectif pour vous, 10%. On dit que 10% d'écart entre ces différents types d'établissements serait, bon, une forme de réussite pour l'éducation prioritaire. Vous vous dites maintenant, il faut qu'on aille vers ce 10% au lieu de 20-30?
Oui, moi je me fixe zéro, évidemment. C'est-à-dire que nous devons... c'est ce qu'on fait avec la mesure CPCE1. Vous savez, une réflexion que je me fais depuis des années, c'est que quand on parle d'éducation prioritaire en France, on pense très souvent à collège. C'est souvent ce qui vient immédiatement en tête, et c'est là-dessus que beaucoup d'efforts se sont concentrés tout au long de ces années. Or, on sait que c'est à l'école primaire que se jouent énormément de choses à la racine des problèmes. Et c'est pourquoi, depuis que je suis arrivé, mon objectif, c'est d'abord et avant tout l'école primaire, en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire, mais a fortiori en éducation prioritaire, et c'est ce qui justifie plusieurs mesures, au premier rang desquelles la division par deux des classes
mais
de CP et de CE1.
Est-ce pour autant qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Pierre? Est-ce que pour autant il faut, et on le voit puisque il va y avoir une baisse du nombre de professeurs dans le secondaire, dans les lycées et les collèges, est-ce que pour autant il faut enlever des gens dans le secondaire pour donner au primaire?
Non, c'est pas un objectif en soi. C'est que dans le cadre d'une vision globale de l'allocation de nos moyens, il est souhaitable d'avoir plus de monde dans le primaire que dans le secondaire, puisque aujourd'hui la France dépense notoirement moins pour son école primaire par rapport aux autres pays de l'OCDE et plus pour son secondaire. Ça veut pas dire, j'en tire pas des conclusions trop hâtives pour le secondaire, mais je sais très bien que si je suis professeur de lettres en 6e ou professeur d'histoire géo en 6e ou de quelques disciplines que ce soit, si je vois arriver des CM2 dont 20% d'entre eux sont très fragiles sur les savoirs fondamentaux, je suis beaucoup plus embêté que si j'ai un élève de plus. Et donc c'est cela le vrai sujet, et c'est cela que nous prenons à bras le corps.
Un mot encore sur ce rapport de la Cour, il faut aller plus loin dans le dédoublement des classes en amont ou en aval de ce qui existe déjà, c'est-à-dire CP-CE1. C'est à l'étude, vous allez le faire?
Alors, la proposition est évidemment intéressante. Après, il y a ce que l'on est capable de faire. Vous savez, la mesure que nous avons prise, elle touche 190 000 élèves cette année. Elle touchera 300 000 élèves l'année prochaine. C'est une mesure massive. C'est pas du tout une mesure cosmétique à la marge. C'est vraiment une mesure qui va au cœur des problèmes. Alors, on peut toujours souhaiter faire davantage. Pour ma part, je plaide, depuis que je suis arrivé, pour une vision du taux d'encadrement beaucoup plus favorable dans les premières années de la vie. Et ce, d'ailleurs, en éducation prioritaire, mais aussi hors éducation prioritaire. C'est le sens que nous prenons en ce moment avec l'école maternelle. Et ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr. D'abord parce que tout ceci est coûteux. Et puis ensuite parce que ça s'organise, y compris avec les ressources humaines que l'on doit avoir. Mais ce que déjà je garantis en ce moment, c'est que chaque département de France aura un taux d'encadrement à l'école primaire plus favorable chaque année tout au long de ce quinquennat. Mmh. C'est un point très important. Il nous est favorisé par deux choses. Une démographie, c'est vrai, qui est en baisse. C'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs pour la France, mais en l'occurrence, ça va contribuer à ce taux d'encadrement meilleur. Et puis le budget en hausse à l'école primaire avec des créations de postes qui vont continuer à l'école primaire. Ouais. Donc ce double effet va nous permettre tout au long du quinquennat d'avoir une école primaire où on fait très attention, notamment aux premières années, c'est-à-dire la maternelle, le CP, le CE1, pour que tous les enfants partent bien dans la vie. C'est aussi simple que ça.
Mais il faut quand même préciser, parce qu'il faut être juste, que vous allez supprimer 1800 postes l'année prochaine et que Édouard Philippe a confirmé qu'il y aurait d'autres suppressions de postes dans les années qui viennent du quinquennat dans l'éducation nationale.
Oui, mais jamais à l'école primaire. Et à l'école primaire, nous allons créer des postes. Nous créons à peu près 1800 postes la rentrée prochaine à l'école primaire.
Jean-Michel Blanquer, dans une tribune au Monde, des professeurs et des universitaires ont dénoncé il y a quelques jours votre culture de l'évaluation. Vous voulez évaluer les élèves, vous voulez évaluer leurs professeurs, vous voulez évaluer les établissements. Sur la philosophie qui sous-tend ces mesures, dites-nous pourquoi vous avez une telle passion pour l'évaluation.
Bon, j'ai aucune passion pour l'évaluation en particulier. Il y a souvent des façons, dans le débat public, des façons caricaturales de décrire ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est ce que vous souhaitez, ce que les gens qui nous écoutent souhaitent, c'est-à-dire que tous les enfants réussissent et qu'on se donne les leviers pour réussir. C'est pour ça que dans le débat public, je comprends parfois qu'on s'oppose à des choses que je peux proposer, c'est bien normal. En revanche, ce serait bien qu'on arrête avec les caricatures qu'on voit, par exemple, sur ce genre de sujet.
Vous avez l'impression que cette tribune dans le Monde est caricaturale?
Oui, comme bien d'autres choses qui sont écrites. Alors que ce serait dommage. C'est dommage parce que par ailleurs, il y a des débats très intéressants à avoir sur ces sujets. Donc, j'ai pas une sorte de passion de l'évaluation parce que je serais quelqu'un de très robotisé qui pense qu'il faut mettre les enfants en batterie pour ensuite les évaluer, les trier, etc.
Non, mais ce qu'il dit, c'est que vous importez à l'intérieur de l'école, au fond, la compétition de tous contre tous qu'on voit dans le monde de l'entreprise et dans le monde des adultes.
C'est l'exact inverse de ce que je porte. C'est l'exact inverse. Que portons-nous ? Nous portons justement une vision humaniste de l'école. Après, il y a les gens qui parlent de progrès, puis il y a les gens qui le font pour de vrai. Les gens qui parlent de progrès, ils font ce genre de tribune. Les gens qui œuvrent pour le progrès, ils font ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils multiplient les leviers qui vont réellement faire progresser les élèves. Parmi ces leviers, mais ça n'est pas le seul, parce qu'il n'y a jamais un seul levier, il y en a plusieurs. Parmi ces leviers, il y a l'évaluation, parce que nous faisons tout ça dans nos vies quotidiennes. Nous évaluons sans drame pour avancer, pour savoir où nous en sommes et pour avancer. Vous faites même ça avec votre compteur de vitesse de la voiture. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de faire en ce début d'année, avec quelque chose de totalement inédit en début de CP et de CE1, même à une échelle internationale. C'est-à-dire, nous avons des scientifiques parmi les meilleurs de leur discipline qui ont élaboré cet outil qui est aujourd'hui, dont on voit aujourd'hui les effets pour chaque professeur de CP et de CE1 de France, qui a un portrait de chacun de ses élèves sur l'ensemble des éléments qui déterminent les compétences de l'élève en lecture et écriture.
Alors pourquoi il est contesté par beaucoup de professeurs, cet outil d'évaluation, la méthodologie?
Il n'est pas si contesté que ça par les professeurs, puisqu'ils l'ont fait l'évaluation. Ça fait quand même 2 fois 800 000 élèves qui ont été évalués, donc ça fait 1 600 000 évaluations. Ça a été fait par les professeurs, je les en remercie, il y en a sans doute un certain nombre qui nous écoutent, je les en remercie, ils ont fait ça très professionnellement, ça c'est très bien remonté. Tout ce que nous avions annoncé se passe, et maintenant le plus important, c'est sur la base de ce portrait, d'avoir un levier pédagogique, puisqu'il n'y a rien de brimant, il n'y a rien qui classe, il n'y a rien qui inhibe dans ce qui a été fait.
Mais est-ce que vous n'avez pas voulu corriger, Jean-Michel Blanquer, peut-être une tendance qui, pour des raisons historiques, idéologiques, politiques, une tendance qui fait que l'école a peut-être cherché ces dernières décennies à euphémiser les classements, à euphémiser l'inégalité de savoir qui existe de fait entre les élèves. Est-ce que vous voulez faire rupture avec ça ?
Un peu, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, vous avez raison complètement. C'est-à-dire que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant, il y a ceux qui parlent de progrès, il y a ceux qui le font. Parce que ceux qui en parlent aiment bien euphémiser. Ils aiment bien qu'on change rien. Parce que si on change rien, on a les résultats que vous avez rappelés tout à l'heure. Et donc on a l'accroissement des inégalités qu'on a depuis plusieurs années. Ça, c'est la facilité intellectuelle. Et puis le courage, peut-être, c'est de prendre des mesures qui sont faciles à caricaturer, mais qui en réalité sont les vraies mesures de justice sociale. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Pourquoi l'évaluation d'un élève de CP, de CE1 à l'entrée à l'école et les résultats qui ont donné, que vous avez détaillés en début de semaine, qui montre que les résultats ne sont pas bons, globalement. On peut le voir, 23% des élèves de CP ne font pas le rapport entre une lettre et un son, la moitié des élèves de CE1 ont des problèmes de calcul mental. En quoi ça va, en quoi savoir ça va améliorer leur résultat à la fin?
Le but n'était pas tellement d'avoir des résultats nationaux qui en gros sont cohérents avec ce que nous savons par ailleurs et que nous voyons malheureusement au travers par exemple des enquêtes PISA qui elles touchent des élèves de 15 ans et donc nous voyons au travers aujourd'hui d'enquêtes internationales des problèmes a posteriori qu'il est difficile de corriger alors même que là nous avons une enquête nationale qui a priori nous donne les éléments pour corriger les problèmes. Donc c'est évidemment ça toute la différence. Mais le plus intéressant, ce n'est pas le chiffre national, c'est évidemment ce qui se passe pour chaque enfant. Et donc, là-dessus, il faut totalement dédramatiser. C'est-à-dire que les problèmes que l'on voit, ils existent. De toute façon, ils existeraient même s'il n'y avait pas l'évaluation, bien sûr. Et simplement, dès lors qu'on est lucide de manière très précise, puisque ça renvoie vraiment à des choses assez techniques, même sur les conditions de l'entrée dans la lecture, dans l'écriture et dans le calcul, et bien à partir du moment où chaque professeur a bien conscience du panel de sujets pour chacun de ses élèves, et bien cela, évidemment, lui permet un pilotage pédagogique de sa classe renforcé. On ne part pas de zéro là-dessus. Beaucoup de professeurs faisaient des évaluations sur ces sujets, mais souvent, elles pouvaient ne pas pouvoir bénéficier de la qualité scientifique qu'on a pu réunir à l'échelle de la France. Et d'autre part, tout le monde ne le faisait pas. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui permet de ne pas avoir de trou dans la raquette, si vous permettez l'expression, et ainsi de faire la véritable justice sociale. J'insiste sur ce point. Vous pouvez prendre les différentes mesures, et j'en prends encore une que je peux vous indiquer aujourd'hui même, qui sont les différents leviers qui permettent d'aller vers cette justice sociale.
Alors vous disiez, Jean-Michel Blanquer, à Léa Salamé, que vous n'aviez pas la passion de l'évaluation. Mais pourtant, vous allez créer un conseil d'évaluation de l'école. Il y en avait déjà un, Jean-Michel Blanquer, ça s'appelait le CNESCO. Pourquoi supprimer le CNESCO, qui avait le mérite d'être indépendant et d'exister? Est-ce que vous voulez un nouvel outil à votre main?
Non, pas du tout. D'abord, en réalité, on ne va pas supprimer les CNESCO, mais c'est, là aussi, ça fait partie des schémas, des choses un peu schématiques qui circulent dans le débat public.
Ça va continuer à exister dans la...
Sous une autre forme.
Ah, voilà.
Il y a deux choses bien claires. Premièrement, un CNESCO, en effet, pour nos auditeurs, c'est important de dire que c'est une instance qui, tout simplement, avait pour charge l'évaluation du système scolaire, existe depuis environ 5 ans maintenant, et a fait des travaux extrêmement intéressants que je suis le premier à avoir salué.
Alors pourquoi?
Et ces travaux... Mais justement, on ne va pas le supprimer. Simplement, ce qui a été fait par le CNESCO est différent de ce que l'on peut souhaiter au travers de l'instance d'évaluation qu'on met en place, qui fait partie des engagements présidentiels d'Emmanuel Macron et qu'il est donc bien normal d'accomplir en démocratie.
Donc vous allez fondre le CNESCO dans la future...
Non, ni fondre ni dissoudre.
Vous allez faire quoi?
Si vous me laissez terminer, je vais vous le dire. Vous aurez donc en fait deux éléments. Le CNESCO, en réalité, la façon dont s'est développé le CNESCO est plus de nature académique que de nature institutionnelle. Donc c'est en réalité une chaire que nous allons créer pour succéder au CNESCO, et cette chaire aura encore plus d'indépendance que ça n'est le cas aujourd'hui, puisque ce sera dans une institution académique. Et ce sera soutenu par le ministère, et donc ça permettra d'aller encore plus loin, et tout à fait dans l'esprit de ce que je promeux, c'est-à-dire le lien entre l'approche scientifique et puis l'approche de l'éducation nationale. Et par ailleurs, et donc c'est un plus et pas un moins, nous créons une instance d'évaluation, et cette instance d'évaluation fera quelque chose qui est très différent de ce que fait le CNESCO jusqu'à présent, puisque elle nous permettra d'avoir une évaluation robuste des écoles et des établissements de notre pays, là aussi pour les faire progresser, pour les accompagner dans leur progrès. Et ce, d'une manière visible, transparente, ce qui est quand même aussi ce qu'on peut attendre en démocratie.
Jean-Michel Blanquer, avant de prendre les questions des auditeurs qui sont nombreuses, vous vous en doutez ce matin, quelques questions d'actualité très courtes. D'abord, l'Aude, après les inondations, les établissements scolaires des 18 communes de l'Aude, où on en est? Est-ce que certaines écoles sont ouvertes, certaines écoles sont fermées aujourd'hui? Quand prévoyez-vous le retour à la normale?
Bon, d'abord, je voudrais évidemment saluer tous les habitants, tous les citoyens qui ont été touchés dans l'Aude et parfois un peu autour de l'Aude aussi par ces intempéries. Ça a été une catastrophe épouvantable. Et je voudrais aussi saluer les personnels de l'éducation nationale qui ont été formidables dans ces circonstances. On ne le dit jamais assez parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas. Mais on voit dans ces circonstances des personnes d'un dévouement exceptionnel et je voudrais leur dire au travers de vraiment les remercier au nom du pays. Et puis, il y a eu tout un travail qui s'est accompli immédiatement d'ailleurs, et qui a donc déjà et je voudrais saluer les maires aussi qui ont été fantastiques, en fait tous les habitants. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir le chiffre le moins mauvais possible, c'est-à-dire on a 13 écoles qui sont fermées ce matin, et je pense qu'elles vont rouvrir assez rapidement pour la plupart d'entre elles, et puis un collège ainsi qu'un lycée agricole.
Sur la loi interdisant depuis cette rentrée les téléphones portables à l'école et au collège, on en est où? Quel est le taux d'application de la mesure?
Alors, le taux d'application a la vocation à être 100%.
Et là,
parfois, certains établissements mettent jusqu'aux vacances de la Toussaint pour l'accomplir réellement de façon à bien adapter leur règlement intérieur et puis aussi à emmener l'adhésion de tous vers cela. Donc, on a en quelque sorte accepté ce temps d'adaptation. Mais d'après tous les retours de terrain que j'ai, on doit être à quelque chose comme 90%. Et au retour des vacances, ce sera 100%.
90% des portables sont interdits dans...
90% des collèges font bien respecter cette interdiction et nous travaillons à ce que le reste avance. Mais c'est pas un chiffre, je vous accorde, c'est pas un chiffre parfaitement scientifique, c'est les retours que nous avons aujourd'hui. Par contre, l'engagement total, non mais parce que on est sur de la courte durée, mais l'engagement total c'est 100%, c'est la loi. Si on a fait une loi, une des raisons fondamentales c'est que la loi est la loi et que bien sûr la loi se respecte et il sera totalement inaccepté à partir du retour des vacances de la Toussaint que l'on sorte son téléphone portable dans un collège.
Des lycéens de la Somme, monsieur le ministre, ont selon le Parisien refusé de travailler sur un livre du romancier Akhli Tadjer. L'auteur n'est pas français, l'histoire ne concerne pas la France, il y a du vocabulaire en arabe dedans. Qu'est-ce que ça dit de l'école, de la France d'aujourd'hui, et quel est votre avis de ministre sur cette question ?
Bien, ce que ça nous dit, un phénomène comme celui-là, c'est les effets de polarisation que nous avons dans notre pays, qui sont largement liés à des phénomènes de société que nous connaissons bien et qui rejaillissent sur l'école. Et nous devons évidemment, dans un esprit républicain, j'utilise ça avec un grand R, c'est la République, c'est le contraire de la fragmentation. La République, c'est le fait de savoir non seulement vivre ensemble, qui est un petit objectif, mais bien vivre ensemble. Et bien vivre ensemble, c'est évidemment profiter de la différence de l'autre, savoir se mettre à la place d'eux, être curieux d'autrui, etc.
Alors ça, sur ce romancier-là,
eh bien, je vais vous répondre. Dans cet état d'esprit républicain, il est évident qu'on ne peut pas accepter ce type de phénomène. Vous savez, j'ai créé des équipes que nous appelons les équipes laïcité, mais aussi lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dans chaque rectorat de France. C'est une création qui date donc du début de cette année civile, et donc elles ont vocation à intervenir pour ce type de phénomène. J'ai donc demandé au rectorat de Lille d'envoyer cette équipe, et il est évident qu'à chaque fois qu'il y a un problème de ce type, on doit le résoudre de cette façon.
Allez, on file au standard de France Inter. Bonjour Zachary, Zachary lycéen.
Bonjour, oui. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour,
il y a un projet de disparition de l'histoire de l'immigration des programmes de lycée qui jusqu'ici étaient présents dans les programmes de seconde et de première. Et justement, est-ce que dans ce contexte où la question des réfugiés est un réel enjeu, où on voit quand même une résurgence de la xénophobie, est-ce que c'est pas important justement que ce sujet puisse être réfléchi avec le recul et le temps long que permet l'école ?
Merci Zachary pour cette question. Effectivement, on a pu lire par voie de presse l'inquiétude d'un certain nombre de professeurs d'histoire disant « dans les nouveaux programmes, il y aura disparition de l'histoire de l'immigration ». Qu'en est-il ?
Je remercie infiniment Zachary pour cette question et vous pour cette précision. Parce que c'est incroyable. Incroyable de voir des tribunes d'historiens, enfin, oui,
de Laurence Decocq, pour la cité, c'est elle qui a mené
le. C'est-à-dire de ceux qui, dans notre pays, devraient être à la pointe de la recherche de la vérité, du fait de s'exprimer en ayant des documents sûrs et certains, vérifiés avant de dire quoi que ce soit. Et donc de voir des personnes qui, normalement, sont les premiers à obéir à cette déontologie, ne pas y obéir. Car c'est tout simplement faux.
C'est démenté. Il y aura encore l'histoire de l'immigration.
Oui, c'est prévu. Et donc, c'est une. Comment vous dites ? Une infox ?
Une infox, c'est le nouveau mot. Romain, bonjour.
Il y en a d'autres, des infox d'ailleurs.
Lesquels ?
Alors, c'est pour ça, si vous voulez, je n'ai pas vocation à commenter les programmes à ce stade, puisque les groupes d'experts les ont remis au CSP. D'ailleurs, il y a eu des fuites, donc même les documents actuels ne sont pas valables en tant que source pour être documentés. Et certains, semble-t-il, ont été falsifiés sur Internet. Donc je demande à tout le monde la plus grande prudence pour cela. La personne que vous avez citée, qui s'exprime beaucoup, mais un peu vite peut-être, cette personne a dit, par exemple, que la Révolution française ne serait plus étudiée dans la voie technologique parce que, disait-elle, les programmes de la voie technologique ne seraient pas révisés et que, en seconde, nous n'avons pas mis la Révolution française puisqu'elle serait en début de première. Eh bien, c'est encore une infox. C'est encore une fausse nouvelle. Donc, si vous voulez, c'est ce que je pointais tout à l'heure. C'est un exemple de ce que je pointais en commençant l'émission. C'est-à-dire, le débat public peut être très intéressant sur l'éducation. Il serait bon qu'il ne soit pas pollué par des gens qui n'ont en tête que la polémique, que la politique politicienne. Et malheureusement, c'est le cas dans l'exemple que l'on cite.
Romain, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'équipe. Bonjour, monsieur le ministre.
On vous écoute.
Bonjour, j'habite l'Isère. Je suis papa de deux garçons qui sont en CP et en CM1. Et ma commune est revenue à la semaine des 4 jours. Et mon problème, donc, dans le cadre du plan mercredi, il y a un centre aéré qui est ouvert. Et la commune impose que les enfants qui sont dans ce centre aéré gardés la journée pendant que nous on travaille. Elle impose que le repas de midi soit pris et payé par les familles sous peine d'exclusion du centre aéré. Aujourd'hui, on est face à un problème, nous, c'est que en tant que famille, on veut avoir nos enfants, on s'est organisé au niveau du temps de travail pour les garder l'après-midi. Mmh. Et on voudrait les récupérer avant la cantine. La commune est inflexible et je suis tourné vers tout le monde. Défenseur des droits sans réponse. Qu'en pensez-vous ?
Merci Romain pour cette question. Faut-il mettre fin à la semaine de 4 jours et demi à Paris ? C'est une question qui va se poser aussi aujourd'hui avec une grève. Jean-Michel Blanquer.
Dans l'exemple que vous citez, qui est totalement symétrique, inverse du problème posé ici. Hein.
Voilà.
Mais d'abord, merci pour cette question, monsieur. Donc, c'est évidemment une compétence de la collectivité locale et je ne peux pas me prononcer sur le point précis. Mais c'est vrai que l'esprit dans lequel tout ceci se fait, c'est, vous le savez, d'avoir aujourd'hui un soutien de l'État aux collectivités locales, donc aux municipalités, pour qu'elles proposent un plan mercredi, comme apparemment c'est le cas dans votre commune, ce qui est déjà une première excellente chose, hein, c'est-à-dire proposer des activités périscolaires, riches, bonnes pour les enfants. Ensuite, les sujets de cantine sont toujours des sujets difficiles, parce que il est assez normal qu'en fonction des ressources des parents, parfois on paye, parfois on ne paye pas. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté avec notre aide à tous les ministres concernés par ces sujets un plan pauvreté qui justement a pour vocation de venir en aide aux communes pour que parfois le repas puisse être gratuit ou en tout cas à un prix très bas. Je ne sais pas si ça pourrait s'appliquer à vous, là je ne connais pas suffisamment précisément le cas, mais en tout cas nous sommes conscients du fait que le sujet de la cantine est un sujet important, il se pose depuis fort longtemps. Il se pose de manière peut-être un peu plus compliquée encore quand on parle d'activité périscolaire plutôt que d'activité scolaire. Mais en tout cas, il y a une action du gouvernement pour venir en appui aux collectivités locales sur ces sujets.
Vous étiez un nom propre, Jean-Michel Blanquer. Ça fait quoi de devenir un nom commun ? Parce que pendant toute la phase du remaniement, on cherchait un Blanquer, on cherchait le Blanquer, on cherchait des Blanquer pour siéger au gouvernement et tenir les ministères. Alors, comment vous l'avez vécu tout ça ?
Franchement, ça n'a pas été mon sujet principal des 15 derniers jours.
Bon, vous étiez premier de la classe, alors ça fait quoi ?
Oui, ça a toujours des effets... Il y a toujours des effets de bord. Je prends ça avec humilité, avec prudence, et puis en souriant.
Et finalement, on attendait des Blanquer et un Blanquer à l'intérieur. C'est un Castaner, finalement, et un Riester à la culture. Ça rime, mais c'est pas des experts.
Tout rime.
Voilà.
Et dans les deux cas, je les connais très bien. Dans les deux cas, ce sont des grands professionnels.
Oui, mais c'est pas des Blanquer.
De la chose publique.
L'explication d'un technicien.
Ce sont des hommes très très préparés. Franck Riester s'intéresse à la culture depuis très longtemps. Il a de grandes idées sur le sujet. J'ai très confiance dans ce qu'on va faire. Quant à Christophe Castaner, il a une vision politique. Il connaît ses sujets. Il s'y est préparé aussi. Et ce qu'il a fait, c'est derniers temps, l'a particulièrement préparé. Et comme vous le savez, il est venu en plus en duo avec M. Nunez, qui lui aussi est excellent.
Lui est un Blanquer, en fait. C'est Nunez.
C'est une appellation d'origine non contrôlée. Mais ce qui est certain, c'est que le duo m'inspire grande confiance parce que, justement, ils ont une grande complémentarité. Donc, je trouve que c'est très bon pour eux. L'intérieur.
Très rapidement, l'intervention d'Emmanuel Macron, pas de nouveau cap, on garde le cap, on garde on continue les réformes, un mea culpa sur la forme, votre avis ? C'était nécessaire ce mea culpa ?
Ce qui est nécessaire, c'est de s'adresser à certains moments aux Français pour indiquer que le cap est maintenu, et heureusement, le cap est maintenu, ça va de soi, parce que le président de la République, s'il y a bien quelque chose que les Français lui reconnaissent, c'est justement d'avoir pris des engagements très forts et de les tenir, et c'est en réalité pour cela qu'il a été élu, et c'est pour ça que nous sommes au gouvernement, pour accomplir ces objectifs.
Et le mea culpa sur la forme ?
Sur la forme, il a dit ce qu'il a dit, ça ne nécessite pas des commentaires, mais ce qui me paraît important, c'est de souligner à quel point, intervention après intervention, on voit que notre chef de l'État, avec le Premier ministre, ce qu'il a en tête, c'est le long terme pour le pays. C'est la maîtrise du destin. Et la maîtrise du destin par chaque individu, c'est le sens des politiques que je mène en matière d'éducation, mais la maîtrise du destin de la nation, ça va évidemment être un enjeu à l'occasion des élections européennes aussi, puisque l'enjeu sera pour nous de montrer qu'au travers de l'enjeu européen, il y a une question de maîtrise de notre avenir. Et cette maîtrise de notre avenir, c'est ce qui est fait en matière d'éducation, mais c'est ce qui est fait par exemple en matière...
Je sens que vous allez déployer vos ailes là. parce que moi j'ai la maîtrise de l'horloge devant moi.
Parfait.
Mais en tout cas, maigre échelle.
D'accord. Non, mais dans ce monde caractérisé par l'immédiateté, il y a une préoccupation de long terme incarnée par le gouvernement.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.